vouloir accepter ce brin, ce petit brin de muguet, témoignage de ma volonté de vous séduire. Un brin de folie qui me conduit à m'adresser à vous, ô mesdames. Comment pourrais-je résister à d'aussi jolis brins de filles? Un brin de soleil, et vous voilà toutes allées. Pour aller où, vous allez me dire, je vous offre un brindis, sauvage, inexploré, tel votre corps. Mais après un brin de toilette, et avant de reprendre le brin-brin quotidien, je vous propose un brin de causette. Vous préférez les blonds au brin? Qu'importe, allez, je me teindrai. Et pour satisfaire à tous vos désirs, j'irai voir ma banque pour un petit embrun. Que diriez-vous d'un brin de minuit? Même si le vent se lève et nous arrose de ses embruns, votre brin de peau ne sera que plus beau. Et sous le clair de lune, je pourrai admirer votre brin de beauté, là, tout en haut de votre cuisse gauche. Et puis après des heures d'extase, nous retournerons chez nous pour gagner notre brin quotidien. En mai, fais ce qu'il te plaît. C'est ça l'effet du printemps. Je dois être amoureux, moi. Allez, c'est parti.
Il est 20h passé de quelques secondes. Nous retrouvons Michel pour les informations sur tout ce qu'ils veulent et bien sûr sur Explain. Bonsoir Michel.
Vous avez tous reconnu Star Wars, donc la guerre des étoiles, et vous allez me dire, mais pourquoi ils nous balancent ça? Quel rapport avec l'aviation, du moins avec le spatial? Eh bien, tout simplement à cause d'un topic de malade, de fêlé sur xplane.fr, un topic lancé par le Buitre, sans vraiment grand rapport avec xplane, mais qui a donné lieu à Dark Patate, à... un truc vraiment complètement barge, et ça m'a fait vachement plaisir de le lire. J'ai trouvé ça assez bien avec la princesse laitue, Dark Melon, qui m'a beaucoup plu, donc je voulais vous en parler, puis je m'étais dit que cette petite musique vous plairait bien. Donc je l'ai gardée tout le long de cette petite rubrique. Et merci à Spokin de nous avoir donné ça, c'est vraiment très sympa ce lien, je vous conseille d'aller le voir, un grand merci Spokin.
Ah oui, c'est vrai ça.
On est d'accord, la mère Denis. Bon, alors allons-y maintenant, quelques petites nouvelles du org. Alors d'abord, d'une part, USA Forest en 9.1 de Alpilot-X qui vient de sortir, donc mettre à jour vos forêts pour les États-Unis. Ensuite, bien sûr, deux scènes de XP Africa qui continuent de grimper, de proposer plein de choses, ça va très vite. Donc, deux scènes de Tunisie, DTK Tabourka, et puis bien sûr, et surtout, souvenir fou, vous vous rappelez, DTTJ Djerba, Djerba la douce, le pied.
Ah oui, c'est vrai ça!
Alors, il y a aussi, pour ceux qui aiment l'Australie, son bush, ses collines, ses déserts, Adelaide Hills. C'est en fait une scène de 18 petits aérodromes et pistes, petites pistes comme ça d'atterrissage, décollage dans le sud de l'Australie, autour d'Adelaide. Nous avons aussi une scène anglaise, Königsby, EGXC de la Royal Air Force. C'est une scène photoréaliste avec beaucoup d'objets, donc je vous la conseille, allez la voir, elle est vraiment pas mal.
Ah oui, c'est vrai ça.
Ouais, c'est ça, et que la ferme soit avec toi. Alors, il y a aussi Salgos, vous savez, ce marmot là, cette espèce de petit mec là, comme ça, qui se balade sur xplane.fr, et qu'on aime beaucoup parce qu'il a mis en ligne sur le org donc son best-seller. Je parle d'un bouquin, un vrai petit bouquin, où vous avez tout le tuto et puis la checklist du Canadair CL415. Voilà, c'est vraiment très très bien foutu. C'est dans la rubrique tutorials sur le Orcs. Voilà, si avec ça vous ne savez pas piloter le CL415, ben passez sur Flight Simulator, bien sûr.
Ah oui, c'est vrai ça.
Alors, dans les utilities maintenant, pardonnez-moi, hein, j'ai pas voulu la faire celle-là, mais ça fait rien. Il y a xfcs.ini pour Mirage 3 et Mirage F1 de Spam, hein, notre ami Spam qui a déjà fait énormément de choses, déjà repéré par les adeptes du pointu sur xplane.fr. Et puis, ah oui, très important. FMS de California Airlines, vous vous souvenez de ce plugin qui permettait de rentrer directement en mode texte, donc son plan de vol, pour l'exporter ensuite dans le FMS natif d'Xplane. Eh bien, FMS California Airlines donc, vient d'être mis en ligne sur le org, toujours pour XP8 et XP9. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus vu ce petit plugin, pas mal, vraiment assez sympa.
Ah oui, c'est vrai ça.
Je sais, commence un peu à vous gonfler la mère Denis, hein. Je m'en doute bien, mais c'est pas de ma faute. C'est Chouminou qui me l'a imposé. Il veut absolument que je le mette. Et voilà, et ben ça lui rappelle sa jeunesse. Il pense tout le temps à mère Denis, un rêve, un fantasme. Enfin voilà. Bon, donc je suis obligé de vous asséner ça. Ça me fait pas très plaisir, mais bon, c'est comme ça. Allez, on continue. Et un avion maintenant, donc, qu'on va retrouver sur le org, mais dont on parle aussi pas mal sur xplane.fr, c'est le Robin DR221 de FASM, qui l'a corrigé et que vous allez retrouver donc pour 864 et 9 sur le org. Un superbe petit avion assez sensationnel.
Ah oui, c'est vrai ça.
Il faut parler un petit peu de XPFR Scénarii, pose toujours de superbes scènes, avec notamment une release, la version 2 de LFMP Perpignan, superbe, vraiment superbe, et Villefranche, LFHV, donc à télécharger sans modération. Les vols réseau maintenant, alors XPR, notre compagnie préférée bien entendu, a ouvert un certain nombre de destinations depuis peu, en particulier vers l'Angleterre, London Heathrow, EGL, et puis London Stansted, EGSS. Et puis Kavok, ben Kavok, ça remue beaucoup maintenant sur Kavok, avec les lundis du Kavok, les vols en hélicoptère, l'initiation à l'hélico grâce à Milan, à Valman, et puis la première étape donc du Tour de Bretagne, Trobriets, qui a été vraiment très très sympa, et puis bien entendu la tournée des pépettes qui se poursuit tous les vendredis soirs, et on sera encore, on va partir de Tahiti. Donc ça va être très très chouette. Et ben je vais vous laisser avec tout ça. Je vais vous rendre chouminou. Et puis grosse bise à tous. Bye bye.
Ah oui, c'est vrai ça.
Ben, c'est le père Michel, mon grand, il a perdu son chat. Ah ben, t'es drôle d'histoire. Bon, allez, une petite page de pub, et puis on se retrouve tout de suite après.
Envie de vous désynchroniser de votre frein-frein quotidien? Le décalage horaire, c'est avoir du temps devant soi, alors que les autres l'ont déjà derrière eux. C'est un temps magnifique qui vous attend. Faut dire que le soleil, vous ne l'aviez plus vu depuis belles lunettes. Ou alors, il joue à cache-cache avec les nuages qui s'accumulent en un Airbus éternellement en grève, à vous boucher l'horizon. Vos valises fondent sous vos yeux? Mesdames, emportez le string minimum et vous, messieurs, faites de même en quelques shorts et embarquez à bord de la compagnie XPR. www.xp-r.net.
Et amis routiers, souvenez-vous que les camions Souchebir sont les seuls camions équipés de sièges Louis XVI à pied galbé. Camions Souchebir, un vrai plaisir.
La radio qui décolle.
On n'est pas très loin de la comédie italienne, mais c'est pas triste non plus, hein, faut pas exagérer, loin de là. Jeune, mais déjà une très très belle expérience en aéronautique. Il nous vient de Saint-Étienne. Et puis s'est installé à Paris. C'est un curieux et surtout un généreux. C'est un ancien de notre site, xplane.fr. C'est Pierrot, Pierrois, que nous accueillons ce soir. Tu m'entends, Pierrot ? Comment vas-tu?
Bonsoir Chouminou, je t'entends, je te reçois 5 sur 5.
Eh ben moi également, ben, tout va très très bien, c'est la merveille de la technique. On applaudit la technique, merci beaucoup. Alors, on va commencer par parler un petit peu de toi, hein, déjà pour essayer de mieux te connaître.
Voilà.
Ouais, bah oui. Et tu as fait de longues études. Tu nous en dis deux mots comme ça. Ah bah oui, on va commencer.
Je les ai poursuivis et j'ai fini par les rattraper un jour.
Oui.
Donc j'ai fait mes études en grande partie à Saint-Étienne. Je suis scientifique plutôt, donc ça aide un peu pour l'aviation. Donc j'ai fait classe prépa technique et après j'ai fait les arts et métiers à Cluny en Saône-et-Loire.
Bravo.
Et voilà, donc pendant deux ans en Saône-et-Loire et dernière année à Paris, parce que la dernière année ça fait regrouper tout le monde à Paris. Et ça m'a permis de découvrir la capitale.
Eh ben oui, de belle capitale. Au fait, par contre, tu regrettes peut-être que tu n'aies pas fait des études dans l'aviation, mais c'est comme ça, quoi.
Ah, les études dans l'aviation, ça aurait été un peu le rêve, je pense. Enfin, ça doit être le cas de beaucoup de monde, je pense. Qui fait de la simulation.
Eh oui, c'est certain. Alors maintenant, tu fais quoi? Je crois que tu enseignes, hein, c'est ça.
Voilà, je suis prof.
T'es prof. Eh ben, c'est bien. Dans quoi? Tu es dans quoi?
Je suis prof en lycée technique, j'enseigne, ça s'appelle la construction mécanique, alors c'est le langage un peu éducation nationale, ça veut dire que j'enseigne la mécanique et le dessin industriel.
Oh waouh, oui je vois très très bien ça, bravo à toi. Donc tu es installé maintenant en région parisienne, hein, c'est ça, tu enseignes dans le sud de Paris, hein, c'est ça.
Voilà, sud-est, du côté de Créteil, et j'habite sur Paris même, en fait, et j'ai adopté Paris, ou c'est Paris qui m'a adopté, en fait, donc voilà, je suis devenu parisien, en fait.
Bon, ben, bienvenue à toi. Nous, on n'est pas racistes à Paris, c'est pas comme ailleurs. Enfin, bon, alors dis-moi tout. Maintenant, on va parler un peu de ta passion pour l'aviation. Allez, dis-nous tout, ça vient d'où?
Oulala, c'est une longue histoire.
On va redémarrer, allons-y, on est là pour ça.
Ah, je vais me sentir vieux là.
Quand
j'étais petit, j'étais pas grand, j'habitais donc à Saint-Étienne, et j'avais jamais eu l'occasion de prendre l'avion spécialement, parce que bon. Et puis un jour, mon papa, il est enseignant aussi, et il avait un ami qui était enseignant en Mauritanie. Et il y avait une place qui se libérait, donc il avait proposé d'aller faire quelques temps en Mauritanie. Ça s'appelait Zouérat, la ville s'est perdue dans le milieu de la Mauritanie, c'est là où il y a des mines de fer, en fait.
Oui.
Alors, c'est pas très aéronautique pour l'instant, mais ça va venir.
Non, on a le temps.
Et donc, pour aller en Mauritanie, c'est dur d'y aller à pied ou en bateau, enfin, c'est un peu long. Donc, on y allait en avion, en fait. Et c'était rigolo, c'était en 84, je pense, en septembre 84. Et donc, c'était UTA, ça n'existe plus, UTA comme compagnie.
Non, c'est mort.
Et non, ça a disparu.
Ouais.
Et on a embarqué, on devait embarquer le matin chez UTA, et en fait, il y avait une grève des contrôleurs ce jour-là.
Ça, c'est drôle, on va en reparler après, mais c'est vrai que c'est marrant, ça, oui.
À l'époque, Roissy était beaucoup plus petit que ce que c'est maintenant, il n'y avait que le terminal rond, le camembert, là-bas au nord-ouest, et il n'y avait pas le terminal 2, d'ailleurs.
Ah oui, exact.
Et donc c'était... Ah oui, pardon.
Non, vas-y, direction la Mauritanie, donc.
Alors. Voilà, DC-10 du TA et tout, baptême de l'air, donc, par la même occasion et tout ça. Et ouais, ça m'avait impressionné, quoi. Pourtant, DC-10, c'est pas très romantique, quoi. C'est un peu gros paquebot et tout. Enfin bon, on était un peu près du hublot, donc c'était bien quand même et tout. On est arrivé entier. Après, là, on a eu une correspondance plus compliquée que prévu, vu qu'il y a eu la grève des contrôleurs. On était partis en retard et on a eu deux jours à l'hôtel, quoi. Enfin, on payait par UTA parce qu'il y avait un problème de correspondance et tout ça. Et après, on a pris un petit avion, un petit Fokker pour aller à Zouérat, à l'intérieur des terres, parce qu'on atterrissait à Nouadhibou avec le DC-10 et puis Zouérat. Et re-avion, tout ça. Et donc, en Mauritanie, le temps passait. On y est resté deux années scolaires en rentrant en France au milieu. Et en partant dans les grandes vacances scolaires de février et Pâques, aux îles Canaries, en fait, c'était l'endroit d'Europe le plus proche de là où on était.
Ah, ok. Et y a pas quelque chose qui t'avait frappé sur l'aéroport en arrivant en Mauritanie?
Et oui!
Et oui, il me semble que tu ne m'avais pas dit ça.
Bien sûr! Alors il y avait les voyages aux îles Canaries, bon là c'était plutôt voyage entre guillemets classique, mais il y avait une activité un peu, ça se fait beaucoup apparemment des pays d'Afrique, il y avait la petite visite à l'aéroport le lundi soir et le mercredi midi, je crois, oui c'était, enfin le lundi soir c'est sûr, il y avait l'avion de Nouadhibou qui se posait et puis qui amenait plein de Français, puis auquel on donnait le courrier en plus et tout, plein de trucs à transporter un peu, et l'aéroport c'était pas du tout comme c'est maintenant, et puis pas du tout comme les aéroports normaux, enfin comme on imagine. Il y avait une piste normale, goudronnée, je pense, ou du sable. Ils avaient poussé le sable, c'était bien. Mais il y avait aucune barrière, on pouvait aller au pied de l'avion, en fait, même quand on n'était pas passager, qu'on était juste spectateur. C'était fabuleux.
C'est sympa, ça. C'était avant le 11 septembre. Oui, c'est vrai. C'était.
Oula, c'était avant le 11 septembre.
Oui, tout à fait.
Même. Donc c'était très marrant la sortie, c'était une activité, aller voir l'avion à l'aéroport, en fait. Alors, je pense que ça existe même plus en France, cette activité-là. Enfin.
Non. Dans le dimanche à Orly, c'est très 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 loin. Et oui.
Et la terrasse à Orly a réouvert il y a quelques années. Elle avait été fermée pendant très longtemps pour qu'ils mettent des doubles vitrages, des grillages dans tous les sens. Elle est réouverte, la terrasse à Orly.
Mais ça n'a plus le. Moi, j'y allais dimanche à Orly, mais c'est une vieille histoire. Mais ça n'a plus du tout le même parfum d'aventure et de rêve. Mais c'est une autre affaire. Je suis là pour parler de toi et pas de moi.
On dérive.
Et oui, c'est vrai. Alors, après la Mauritanie, allez hop, le retour en France, quoi. Alors,
et voilà. Il a fallu retourner en France parce qu'on allait, on n'allait pas passer notre vie là-bas, c'était un peu perdu quand même.
Bien sûr. Donc là,
j'avais un peu tombé un peu amoureux de l'aviation, tout ça. J'en rêvais, machin. À l'époque, je bricolais des petits machins chez moi, j'avais essayé de faire des avions en carton qui ne volaient pas parce que.
Comment ça,
j'ai compris plus tard que les ailes étaient à l'envers, en fait. J'ai compris après que le haut des ailes doit être plus bombé que le bas des ailes, en fait. Je savais pas ça en fait, et moi forcément il s'écrasait encore plus vite que s'il n'y avait pas eu d'aile, quoi.
Bah dis donc, pour un scientifique, c'était quand même pas terrible. Enfin bon, on va pas insister.
Ah mais à l'époque, j'étais en 5e, 4e, alors.
Bertrand,
c'était un peu loin, mais ouais, j'avais essayé de faire des maquettes d'avions. Ça s'est amélioré un peu par la suite, enfin pas dans les maquettes, mais la suite s'est améliorée en fait.
Et donc,
en France. Retour à Saint-Étienne, d'où on venait en fait, c'était bien, voilà, on a repris le rythme et tout ça. Et quand on voyageait avec mes parents, parce qu'on avait un peu les vacances square, on passait des fois vers des aéroports et j'adorais voir les avions en fait. Enfin, bon, tous les gosses aiment voir les avions, mais j'étais un peu fasciné par ça, quoi. Puis, ouais, Et coup de chance, en 88, c'était en 88, vers Pâques. Le lycée, la ville de Saint-Étienne a été jumelée plutôt avec la ville de Des Moines dans l'Iowa en fait. Bon, puis le lycée, c'était mon lycée qui avait été choisi pour prendre des correspondants à expédier là-bas, en fait, hein, pour représenter dignement ma ville.
Bien sûr.
On était tous choisis, et j'étais pas mauvais en anglais, donc j'ai été choisi, parmi les 12 heureux élus pour aller passer 15 jours là-bas, en fait. C'était dans l'Iowa, mais trajet en avion, correspondance, tout ça. La grande vie, en plus, trajet sans mes parents, donc ça faisait grand voyage un peu quand même.
Le survol du Saint-Laurent, peut-être, tout ça.
Et oui, parce que pour aller dans l'Atlantique, pour ceux qui font pas des vols long courrier, on passe par une orthodromie, en fait, et on passe assez loin au sud du Groenland, et on longe les côtes du Canada, la côte est du Canada et la côte est des États-Unis, et on passe par le Saint-Laurent. Voilà. Et le Saint-Laurent, c'était très beau. Sur l'Atlantique, il n'y avait rien à voir, mais le pilote était sympa, parce que quand on arrivait sur le Saint-Laurent, il a signalé qu'on passait le Saint-Laurent. J'étais du bon côté de l'avion, et on voyait comme des glaçons dans du pastis. Il y avait des gros glaçons dans le Saint-Laurent.
C'est une bonne idée, ça, oui, évidemment. C'est très bon, ça.
L'eau était moins jaune et tout. Ça avait l'air très beau, et il y avait des gros icebergs dans le Saint-Laurent, en fait, parce que c'était la fin de l'hiver, c'était mi-mars, à peu près.
Ouais.
Et c'était très, très joli à voir, en fait. Hein. C'était beau, quoi.
Alors, ça t'a donné la passion de l'avion, elle vient de tout ça, quoi. Elle vient de tous les vols que tu as fait comme ça étant gamin. Mais alors, il y a bien un moment quand même, tu t'es mis à faire de la simulation. Allez,
alors on va en parler. C'était peu après, là, ça, les choses s'activent. Là. Il y a eu un gros saut de plusieurs années, mais là, ça va aller plus vite.
Oui.
Donc, dans les années, c'était en 89, en fait. Ma sœur avait un an de plus que moi, elle passait le permis de conduire, et moi je peux pas passer le permis de conduire parce que j'y vois pas bien, on y reviendra tout à l'heure.
Et donc
j'y vois pas bien, donc mes parents, au lieu de me payer le permis de conduire, je sais pas combien ça coûte, mais ils m'ont acheté un ordinateur, en fait. J'étais le seul, j'ai découvert l'informatique.
Ils auraient jamais dû le faire, ça, mais bon, tant pis pour eux, quoi.
Et donc, mes parents m'ont offert, j'ai payé 10% du prix quand même avec mes économies et tout.
C'est
donc,
bien.
Et c'était un ordinateur Thomson, mais pas un MO5 ni un TO6 ou un MO7 ou je sais pas quoi, TO7. C'était un ordinateur compatible PC de Thomson.
Ah ouais,
non, mais... TO-16, ça s'appelait TO-16.
C'était déjà balèze, hein, quand même, à l'époque.
Attends, c'était les ordinateurs qui avaient l'armée. Hein. Thomson était fournisseur de l'armée, ils avaient des TO-16, en fait. Ça marchait très bien, parce qu'il a toujours marché, d'ailleurs, jusqu'en, il n'y a pas longtemps, mais pas en données. Bon. Il marchait toujours, hein, il y a 2-3 ans. Ah, fabuleux, donc. Et donc, là-dessus, avec des copains, il y a un copain, un été, il avait aussi un ordinateur, un PC. On avait essayé Flight Simulator 2, alors c'était terrible. Il y avait deux palettes graphiques possibles, c'était du CGA 4 couleurs, soit une palette jaune, soit une palette violacée.
Ouais.
Et c'était très bizarre, parce que pour distinguer, alors ça se passait à Megs, déjà à Chicago Megs, le fameux terrain mythique au bord du lac Michigan. Donc d'un côté il y a la terre, l'autre côté à l'est il y a l'eau normalement. Et là fallait vraiment imaginer que c'était pas pareil à l'est et à l'ouest, quoi, qu'il y avait de l'eau d'un côté et de la terre de l'autre. Après coup de chance, ouais, sur un ordinateur du lycée, bon c'est mal, mais avec des copains, il y avait une salle d'informatique où on pourrait demander la clé pour aller travailler l'informatique et tout ça pendant le temps de midi. Et on avait trouvé sur un disque dur qui traînait Flight Simulator 3, qui était un grand progrès.
Quel progrès.
Ah oui, il y avait plein de couleurs là, et puis c'était compatible avec ma carte graphique EGA 640-350 en 16 couleurs parmi 64, donc c'était super beau. Et c'était super fluide, il y avait à peu près une image toutes les 2 secondes.
Tu te rends compte quand même de cette évolution extraordinaire, et t'es pourtant pas vieux, hein, mais on parle déjà comme d'un autre monde, quoi, d'une autre époque, et c'est vraiment impressionnant finalement la vitesse où tout ça s'est passé. Et puis finalement, un jour, tu as découvert X-Plane quand même.
J'ai fini par acheter Flight Simulator 3 parce que je l'avais piraté, mais c'était difficile sans la doc, donc je l'ai acheté. J'ai acheté Flight Simulator 4. Le 5, quand j'ai débarqué à Paris en 95, après mes études, enfin la fin de mes études en fait. Après, il y a eu Flight Simulator 5.1, ouais, c'était une autre version, il fallait repayer pour ça. Et un beau jour, c'était en 96. J'avais vu sur un magazine, c'était un magazine micro-simulateur qui existait déjà à l'époque, qui avait un truc qui s'appelait X-Plane, et on pouvait acheter la démo à l'époque. Il n'y avait pas Internet, quoi. C'était, il y avait peut-être CompuServe, des trucs comme ça, mais j'y avais pas tout ça. Et donc j'avais acheté la démonstration d'X-Plane dans une boutique qui a fermé, qui était la boutique de l'aviateur de l'aéroclub de France. C'était rue Galilée là.
Ah ouais, c'est un vieux truc, ouais.
Ils vendaient que des simulateurs super classe, alors c'était en sous-sol, et quand on rentrait, il y avait des simus, des machins, des yokes, des super machins, et on pouvait acheter la démo d'X-Plane, genre à 60 francs, un truc comme ça, à l'époque c'était le franc. Et j'avais essayé cette démo d'X-Plane sur je devais avoir un portable à l'époque, que j'avais acheté, ou un truc, oui, j'avais acheté un portable. Et donc j'ai fait du X-Plane, alors c'était la démo, il fallait la relancer, puis c'était... Ça faisait un peu le look Flight Simulator 4 avec des. Il n'y avait pas de texture. Enfin, si, il y avait des textures, mais c'était grisonnant, violet, c'était bizarre. Les modèles de vol étaient mieux qu'ils Flight Sim de l'époque. Mais bon, c'était un peu déprimant par rapport à maintenant. Donc, j'avais quand même pris le virus. C'était X-Plane 566 à l'époque.
566, d'accord. J'ai connu ça, ouais. Et oui. Et tout doucement, t'as continué. T'as suivi l'évolution d'X-Plane, quoi. Avec, normalement, comme tout le monde par la suite, quoi.
Voilà, alors donc au début il n'y avait pas le forum, donc c'était un peu rudimentaire, il n'y avait pas d'add-on, il n'y avait rien. Après il y a eu le X-Plane 6 et j'ai fini par l'acheter. X-Plane 7, c'est la 7 qui a inventé le répertoire Custom Scenario, je crois, je sais plus.
Oui, je dirais oui, je pense.
Peut-être la 740.
Je sais pas. Peut-être que c'était sur la 6, mais je m'en souviens pas. Mais sur la 7, c'est évident, oui, bien sûr.
Et donc, ça a été un grand progrès, parce que là, donc, ça date dans les mêmes temps que le forum xpfc.org a dû exister. Donc, voilà, vers les années 2003-2004, un truc comme ça.
Ouais, tout à fait.
Et donc, grâce au fameux répertoire Custom Scenario qui structurait bien les scènes additionnelles, ça a commencé à exister. Bon, Internet était bien développé. Et donc, là, ça a commencé à vivre vraiment. Je m'étais mis au vol réseau à peu près dans ces eaux-là, en 2002-2003. Ah, le vol réseau, oui. Le vol réseau.
On va en reparler. Et puis, enfin, on parlera peut-être éventuellement de la version 9 tout à l'heure pour tu donnes ton opinion, parce que je sais que tu es toujours au top de chez top, hein, tu suis l'actualité très très régulièrement, donc je vois par rapport au message que tu peux poster que tu tiens au courant, t'es très très collé à tout ce qui sort avec X-Plane, quoi, vraiment. Mais on va parler maintenant finalement de quelque chose de... Il va falloir que tu m'expliques pourquoi tu t'es mis dans l'idée de faire du contrôle. C'est une démarche très différente finalement que de voler. Moi, j'aime l'avion, c'est un espace de liberté, et se mettre à contrôler, c'est passer de l'autre côté de la barrière Et c'est une démarche que tu as faite pour des raisons particulières ou comme ça, pour découvrir autre chose?
Ah oui, alors il y a une histoire. Oui, donc je m'étais inscrit sur les deux réseaux en fait, je ne sais plus, en janvier de je ne sais plus quelle année. Et bon, je volais tranquillement et tout ça. Et un beau jour, qu'est-ce qui s'était passé? Oui, ben, je volais tranquillement. Et donc je m'étais mis un peu au contrôle sur IVAO comment il s'appelait, Pro Controller comme logiciel. C'était pas mal, bon c'était bien. Je m'étais mis parce que, ah oui, la raison pour laquelle je m'y suis mis en fait, c'est parce qu'il y avait la canicule en fait.
Ouais.
En 2003 ou 2004, je sais plus en quelle année il y a eu la canicule, oui.
Oui.
Et donc, oui. Alors je contrôlais un peu à Marseille, et puis après je m'étais plutôt basé à Clermont. Je contrôlais le matin tôt et le soir tard, parce que les PC chauffaient pas trop à l'époque, parce qu'il faisait très chaud, il faisait 40 degrés à Paris, enfin c'était invivable. Mais c'était une activité bien, et voilà, et c'était bon, je sais pas, je m'étais mis au contrôle, c'était moins gourmand en ressources aussi que le pilotage, et puis il suffisait de lancer le logiciel de contrôle, c'était peut-être plus facile à faire. Et puis, bon, un vol d'une demi-heure, c'est dur. Alors, contrôler une demi-heure quand il y a des habitués, c'est peut-être faisable aussi.
Bien sûr.
Donc, c'était pas mal, tout allait bien. Et donc, j'aurais pu en rester là. Mais, c'est sympa. Mais un jour, je lis un message, j'étais inscrit sur Vadsim et IVAO, et Vadsim avait sorti à SRC comme logiciel de contrôle, qui était une grande révolution par rapport à ProController, en fait. Alors, ProController avait existé, c'était le seul logiciel à l'époque qui existait avec Mac RadarScope, en fait. À l'époque, il y avait aussi un logiciel pour Mac. Mais c'était un peu rudimentaire quand même, quoi. Ça marchait, mais c'était simple. Alors qu'à SRC, ça tentait vraiment de répliquer un vrai écran radar basé, je sais plus si c'était sur un système américain. Enfin, ça répliquait vraiment des trucs corrects, avec les petites indications près du spot de l'avion. Et donc, là, j'avais commencé vraiment à accrocher. Donc, je m'étais inscrit au système français qui débutait sur Roissy, en fait. Il n'y avait pas le choix à l'époque. On débutait
à Roissy.
Comme en vrai, parce que les vrais contrôleurs, j'avais discuté avec le genre des vrais contrôleurs, eh ben, ils débutent à Roissy parce que c'est très formateur, il y a déjà toutes les positions, le sol, la tournole, la tour sud, les départs, les arrivées, en route, enfin, il y a plein d'étages.
Je sais pas combien de temps là-dedans. Et je t'ai connu sur Roissy, je m'en souviens. Tu m'étonnes.
C'était un certain Charlie Papa 1949.
Ah bon? Oui, ça doit être moi, ça. Quelle réputation j'avais pas. Enfin, bon.
Ah non, pas lui.
Oh non, encore lui. Oh là 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 là, la galère, le boulet, enfin tout ça quoi. J'ai tout entendu, enfin.
Surtout les taxiways dans X-Plane à l'époque, il n'y avait pas Roissy de Bébert avec les avions qui bougent et tout, il n'y avait rien.
Il y avait
quand même les quatre pistes en fait. Hein. Ouais. Il y avait un gros parking central, énorme, un petit forme par rapport au vrai, et un ou deux taxiways pour y aller de la piste au parking, sinon il fallait passer sur les champs.
C'est fou hein, quand tu réfléchis.
Et on s'en boulait.
Oui, c'était abominable. Enfin bon. Et après, t'es parti. T'as souvent contrôlé Brest, si ma mémoire est bonne.
Voilà, donc j'ai passé les examens pour monter entre guillemets en grade, pour contrôler. Enfin, ça sert à bon monter en grade, ça sert à rien sur Vadsim. À part que tu peux contrôler des choses autres que l'approche ou la tour d'un aéroport. Tu peux contrôler des centres en route, en fait, des grosses zones en croisière et puis les terrains qui sont en dessous. Donc je m'étais mis, à l'époque, il y avait pas mal de monde qui contrôlait, mais Brest contrôle n'était jamais ouvert, la partie ouest de la France. Donc je m'étais un peu, enfin j'avais pris Brest et ça gênait personne, donc je m'étais un peu, c'était ma zone de contrôle réservée, réservée.
Bien oui.
Et il y avait des habitués X-Plane qui, on faisait des soirées un peu à l'arrache, des fois organisées pour différentes circonstances, entre Nantes et Brest, parce que c'est le vol un peu classique.
Ah oui, mais je m'en souviens bien. Je me souviens, tiens, même d'une petite anecdote comme ça en passant. Un soir, tu avais lancé un petit message sur notre site en disant « Tiens, il y a du vent, c'est la tempête, venez faire un tour sur Brest. » Et moi, je me suis retrouvé avec deux, trois collègues en partant de Brest. Je crois qu'on était parti faire un petit tour vers Saint-Malo, quelque chose comme ça. Je me souviens que... Eh ben, tu sais quoi, c'est toi qui me contrôlais au départ, pas de problème. Et puis, je me suis endormi aux commandes, dis donc. Faut pas le dire, hein. J'espère que personne nous écoute. Hein. Et tu m'as réveillé, je devais être au-dessus des îles anglo-normandes, quelque chose comme ça, quoi.
C'était marrant parce que je me souviens qu'il y avait du vent, il y avait 35 nœuds de vent.
Ah oui, ça soufflait fort.
Avec des rafales à 53 nœuds.
Ah quand même, hein, donc... c'est quand même pas rien, hein.
Et donc, le Charlie Papa 1949, à un moment, il répondait plus, mais il arrivait chez l'anglais, c'était ça le problème. Donc, il fallait, le contrôle anglais commençait à paniquer, donc je sais plus, ça avait dû se finir que le contrôle anglais, j'avais dû expliquer que, bon, tu suivais ta route, ou je sais pas, et puis t'avais traversé tranquillement là-bas.
Impeccable, pas un pet de jeu. Enfin, c'est pour rigoler. Eh ben, justement, tiens, je voudrais que tu expliques aux jeunes ou moins jeunes, enfin à ceux qui veulent se lancer dans le vol au réseau, bien sûr qu'il faut essayer de faire les choses très sérieusement, mais qu'on peut malgré tout, faut pas trop se prendre la tête quand même, on peut commettre des erreurs, on peut, qu'est-ce que tu en penses? Ça, il faut l'expliquer.
C'est ah important. Oui, donc... On rigolait pas. À Roissy, il y avait une bonne ambiance, hein, à Roissy, c'est très compliqué comme aéroport. Puis à l'époque, je sais pas ce que c'était comme Flight Sim, mais les scénarios étaient peut-être pas aussi détaillés. X-Plane, bon, il y avait des petits soucis de scène à l'époque, mais même avec toutes les scènes, c'est dur de se repérer. Donc les gens se trompent peut-être taxi, ouais, des fois, ou sortaient de la piste et tout ça. Et en fait, dans l'écran de contrôle, en fait, les fichiers secteur, comme on appelle, sont très bien faits, même à Roissy, il y a tous les taxis, ouais, et tout. Et on voit bien les gens quand ils roulent dans le pré ou quand ils sortent de la piste, et souvent les gens font mine de rien, disant, ouais, il aura pas vu. Et ça se voit, donc on prenait souvent des fous rires entre contrôleurs, parce qu'on peut parler entre contrôleurs avec ces logiciels de contrôle, on peut parler carrément à part sur un autre canal. Et c'est arrivé qu'on se prenne des fous rires, notamment avec des Canadiens et des Québécois, parce qu'il y en a qui aiment bien Roissy.
Mais il faut bien expliquer quand même, il ne faut pas avoir peur de ça, quoi. C'est pas grave, hein, si on passe à côté, etc. Il faut dire aux jeunes, à tous ceux qui nous écoutent, allez-y, hein, on se marre bien. Et puis, de temps en temps, quand on fait une connerie, ben on fait une connerie, mais c'est pas grave. Hein. Non, qu'est-ce que t'en penses, Pierrot?
Bah, le seul truc... On peut tout être permis, parce que même quand les gens ils sortaient de la piste, des fois, sympathiquement, on leur envoyait un petit message. Vous voulez un tracteur pour vous désemborder? Alors les gens, ils rigolaient.
Ça, c'est pour se moquer, mais...
Non, mais tu as raison. Le seul truc qu'il faut éviter de faire, en fait, c'est ne pas répondre. Bon, c'est mal, parce que... Et il faut éviter de se poser en plein milieu de la piste au démarrage, en fait, de X-Plane ou de Flight Sim ou de n'importe quoi, parce que... Il y en a un qui peut être en finale. Alors, il y a une anecdote comme ça, c'est Flight Sim, c'est le simulateur que tout le monde utilise, et il paraît que, je sais pas, dans Flight Simulator, les nouveaux, puis 2004, apparemment, la position par défaut, c'est la piste 34 à Seattle, il paraît. Et les contrôleurs de Seattle, ils ont l'habitude de dire aux pilotes d'ignorer les avions sur la piste, parce que, plusieurs fois par heure, il y a un gars qui se connecte avec son avion aligné sur la piste 34 à Seattle.
Ah, bon. Et tu sais ce qu'on va faire, parce que je vois que le temps avance.
Ah oui, là,
non, mais je t'en prie, il n'y a pas de problème. Je vais passer une petite page de pub très très courte, et puis on se retrouve après, juste après. T'as encore un tas de choses à me dire, ne bouge pas, ne quitte pas, surtout ne faites rien, une petite page de pub, à tout de suite.
Come fly with me, let's fly away.
X-Plane FR.free.fr. X-Plane FR.free.fr.
Come fly with me, let's fly away.
Un problème avec X-Plane? Vous ne savez pas piloter? Vous voulez piloter un hélicoptère?
Come fly with me, let's fly away.
X-Plane FR.free.fr.
X-Plane FR, la radio qui décolle.
Eh bien, on est de retour avec toujours Pierrot, notre invité de ce soir. Alors, maintenant, Pierrot, je voudrais qu'on aborde un sujet... quand tu m'as raconté ça, moi, ça m'a quand même vraiment passionné. Déjà, on va revenir très rapidement, ça tu vas l'expliquer, sur les problèmes de vue que tu as, pour pouvoir enchaîner sur, justement, sur les miroirs volants, et tu vas nous raconter tout ça. Moi, je trouve ça que c'est vraiment intéressant et passionnant.
Ah oui, les miroirs volants, alors c'est pas une blague, ça existe vraiment. Alors bon, déjà, juste pour parler un peu de moi, j'ai des problèmes de vue, voilà, c'est pas gravissime. C'est quand je suis né un peu tôt, en fait, je sais pas si j'étais pressé, donc on m'a réanimé, et l'oxygène ça abîme les rétines, en fait, donc j'ai un gros problème de vue, j'y vois mal.
Mais ceci dit, ça t'a pas empêché de faire de brillantes études, hein, entre parenthèses, hein. C'est vrai.
Ouais, je prenais tous les cours à l'oreille, en fait. Alors, des fois, je me faisais engueuler à l'école parce que je regardais pas le tableau, mais je me faisais souvent engueuler parce que je regardais jamais le tableau, en fait. Donc, je sais pas ce que c'est que regarder un tableau. Donc, je peux pas conduire de voiture, mais je peux piloter un avion. Alors, il y a un détail quand même. Je peux piloter un avion avec un instructeur à côté.
Alors, raconte-nous comment tu as découvert les miroirs volants et comment ça s'est passé au début quand tu es allé pour la première fois rencontrer ces gens. C'est vraiment passionnant, ça. Vas-y, à toi.
Ah ouais, c'est marrant. Donc, alors, comment j'ai trouvé les mirovolants? C'était rigolo. Donc déjà, à la fin de mes études, j'avais parlé avec un copain qui, comme il m'avait dit, il existait un petit diplôme pour faire de l'enseignement aéronautique bénévolement dans les aéroclubs, dans les lycées ou dans des associations, qui s'appelle le certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique. Ça sert à enseigner le BIA, qui est le brevet d'initiation aéronautique, en fait. Donc c'est un petit examen, voilà, ça coûte rien du tout à passer, et puis voilà, c'est sympa. Ça permet d'enseigner bénévolement, mais au sol, hein, pas rien. Donc j'avais passé ça en me disant, au cas où, quoi. Et puis bon, je m'en étais jamais servi, ce truc-là. Puis un beau jour, en été, l'été 2001, c'était l'été 2001, je feuillette un magazine, puis par hasard, que je lis jamais d'habitude, je sais plus ce que c'était, et il parlait des mirovolants qui faisaient des stages pour pilotes aveugles. Ça ressemblait un peu à une blague, mais non, ça avait l'air vraiment sérieux, parce que c'est un magazine sérieux.
Oui.
C'était un magazine pas du tout lié à l'aviation, un magazine général, un peu de société et tout ça. Et donc, c'était pas le mois d'avril, quoi. C'était pas l'idée de faire des blagues. Ils expliquaient que les mirovolants faisaient un stage à Coulommiers au mois de juillet, tout ça. Bon, alors, il était en train de se passer le stage, donc c'était un peu tard. Mais j'ai contacté les mirovolants l'été en leur expliquant que j'aimerais bien y participer. Et puis, éventuellement, pourquoi pas, avec mon petit CAEA, leur faire de l'enseignement aéronautique pour que la formation soit un peu carrée, en fait. Donc j'ai commencé petit, donc j'ai reçu la réponse des mirovolants, alors la date est presque drôle, j'ai reçu la lettre comme quoi le stage est organisé, alors c'était le stage d'automne là, qui avait lieu à Auch, et la lettre que j'ai reçue, elle était datée du 12 septembre 2001.
Évidemment.
Donc bon, c'était pas une blague, hein, c'est pas nous.
Non, c'est pas dans le coup, d'accord.
Non, on est encore là alors.
D'accord, oui, je te crois, enfin... je te crois. Enfin bon, allons-y. Et après, donc, t'es parti à Auch.
Je suis parti à Auch, j'étais jamais allé. La région, c'est sympa. Bon, je pars à Auch en train, tout ça, machin. Déjà, c'était marrant dans le train. Je crois, il y avait un aveugle qui se baladait dans le couloir. Je me dis, tiens, il va peut-être au stage d'aviation, lui. C'est la première fois que je voyais des aveugles, pratiquement. Bon, je le connaissais pas. Bon, la suite a prouvé qu'effectivement, il allait au stage. Je sors de la gare. On allait jusqu'à Agen. Puis à Agen, il y avait un changement. Il fallait sortir du TGV, puis prendre un car pour aller à Auch. Et je me précipite pas pour sortir, et puis au moment sorti de la gare, je cherchais la gare routière, pof, j'arrive là-bas, il y avait plein de cars et tout ça, puis près d'un car, il y avait un tas d'aveugles avec des cannes blanches, des lunettes noires et tout, et la première chose que je leur ai dit, c'est « Vous allez au stage d'aviation avec les mirovolants ?» Et ils m'ont dit oui.
Ah, c'est extraordinaire.
Donc, la première fois que j'ai parlé à un aveugle, c'était pour parler d'aviation, en fait.
C'est chouette, hein, c'est vraiment superbe. Et donc, t'as piloté là-bas, t'as appris à piloter donc en réel. T'as commencé là-bas et toujours bien sûr avec un instructeur à tes côtés, mais t'as vraiment piloté. T'as piloté sur quoi tu pilotais?
Alors le premier stage là, tout ça, j'ai piloté sur, ça s'appelait un DR-340, c'est un peu plus petit qu'un DR-400, mais plus gros qu'un HR-200. C'est bois étoile, c'est plus léger que le HR-200, et c'est assez démonstratif comme avion, un peu réactif, c'est pas mal. Et donc la première fois que j'ai piloté, l'instructeur, il m'a demandé de raconter mon expérience aéronautique. J'ai expliqué que j'avais fait que du simu, machin, mon CAEA, enfin les connaissances, tout ça. Et donc, il m'a peut-être pas fait faire le roulage, mais il m'a laissé décoller, en fait. Donc, le décollage, c'était un peu comme le simu. Enfin, c'était pas décevant, parce que c'était grandiose, quoi, et tout.
Ben non.
Et, première fois, je pilotais vraiment pour décoller, donc c'était bien. Puis, il m'a engueulé, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais au mirovolant? Alors, je lui ai expliqué, que si je voulais piloter, c'est dur de faire ailleurs, et tout. Et donc, c'était bien, on a fait des virages, machin, après des petites navigations. Donc le premier stage se passe, 3 heures de vol en tout, au carnet de vol, tout ça, bien. Et donc, après j'ai refait un autre stage quand même au printemps, l'hiver passe, parce qu'il fait pas très bon en hiver, même dans le sud-ouest. Et au printemps, je refais un stage avec un autre instructeur qui me connaissait pas, mais bon, et là c'était sur Cessna qu'on pilotait. Alors les Cessna c'est un peu pépère, c'est plus stable, et puis bon, c'est autre chose, quoi, mais bon, ça marche aussi comme dans le simu. Et donc premier vol, l'instructeur me fait faire le roulage, la totale. Le décollage, la radio, parce que c'était assez simple, c'était de l'auto-info, en fait, puis avec le contrôle virtuel et puis le pilotage virtuel, ça aide un peu, quand même. C'est un peu comme Unicom, quoi, auto-info, tu dis tes intentions. En plus, c'est en français, donc c'est bien.
Eh oui. Oui, c'est superbe. Et donc, t'as volé.
Le premier vol du mois de Pâques, là, de l'année d'après, c'était en 2002. Et on fait l'approche, tout ça, on descend et tout ça. Et l'instructeur, je pensais qu'il allait reprendre les commandes avant l'atterrissage. Et en fait, je me suis rendu compte que non, que c'était moi qui avais posé l'avion, c'était rigolo.
Ouais, c'est rigolo, mais t'as pas eu peur?
Si, peut-être. Mais j'ai pas eu le temps cette fois-là. C'est presque la seule fois où j'ai pas eu peur en atterrissant, parce que je pensais que l'instructeur allait reprendre les commandes, puis je pilotais, il va les reprendre dans la seconde qui suit, et puis non, en fait, il a jamais repris les commandes, parce que c'était a priori pas dangereux, hein. Il était dans la même galère que moi, l'instructeur, donc il voulait peut-être pas mourir.
Oui,
j'imagine. Et ça s'est bien passé. Et le plus drôle, c'est qu'après m'être posé, on a roulé, j'ai freiné, et une fois arrêté en plein milieu de la piste, j'étais tellement content que je me suis rendu compte là qu'on était posé et arrêté et tout, c'était moi qui l'avais fait. J'ai tout lâché, les 120 et tout. Enfin, c'était pas dangereux parce qu'on était arrêté. Puis l'instructeur m'a dit, je vais ramener l'avion au parking parce que c'est mieux.
Tu craquais un peu. Non, ouais. C'est une très belle histoire. Et ensuite, tu as servi d'instructeur, hein, c'est ça, pendant quelques années.
Voilà, j'ai participé à faire la formation au sol, parce qu'instructeur, c'est ceux qui ont les vrais diplômes d'instructeur. Ça, moi, je participais à faire un peu la formation au sol, donc un peu ce qui était la préparation de nav, expliquer un peu la théorie du vol, comment on naviguait, pourquoi un avion ça volait, enfin un peu les trucs généraux. Et il y a eu un stage, mais c'est vrai, je t'avais peut-être pas raconté ça. Non, on avait fait un stage à Cahors quelques années plus tard, où les instructeurs me faisaient confiance, ils me faisaient faire les checklists pré-vol, en fait. J'avais l'impression parce que papa, je me plante. Mais moi, ils étaient pas fous, les instructeurs, ils me faisaient monter derrière un passager. Donc, comme ça, j'étais obligé de faire les checklists, les vérifications pré-vol avant, en fait.
D'accord. Je vois. Ouais. T'as vraiment une très très belle expérience, finalement. Et tu voles toujours un tout petit peu? Ouais. Tu continues à voler?
En réel, j'ai pas tellement volé récemment, c'est que ça revient assez cher, en fait. J'ai voyagé, j'ai fait pas mal d'autres choses qui coûtent un peu cher et tout ça, mais pendant, le mirovolant, j'ai participé pas mal, puis ça a coûté cher aussi. Je pouvais pas à la fois piloter pour moi-même et faire les stages des mirovolants, enfin, c'était un peu compliqué.
C'est évident.
Et donc, parce que les vacances, c'est limité aussi, quand même, hein.
Oui.
Et donc, j'ai piloté pendant 2-3 ans à l'aéroclub de Creil, au nord de Paris.
Oui.
Alors, pour ceux qui connaissent Creil, ils vont dire, non, on peut pas y aller, Creil, parce que c'est pas ouvert à la circulation aérienne publique, à la CAP. Et il y a une exception, en fait. C'est usage restreint, enfin, réservé. C'est même pas usage restreint, parce que c'est terrain militaire, mais c'est réservé à l'aéroclub de Creil, parce que l'aéroclub de Creil existait avant les militaires.
Tout à fait. Ouais.
On a une super piste de 3 km de long et tout. On pourrait quasiment y poser un 747 ou un A320, parce qu'on a
un A320? Tu m'étonnes. Bon, fragile, quoi.
Et nous, on était plutôt branchés Robin, DR400, HR200 et tout ça. Et j'ai piloté pendant pas mal de fois. Là-bas, mon instructeur était très rigolo, il s'appelait Beaubourg.
Oui.
Et il était ancien militaire en retraite et tout ça. Et il avait des techniques pédagogiques spéciales mais efficaces. Quand on faisait une bêtise, il donnait des coups de poing sur le genou.
Ah bon, d'accord. Je vois le genre.
Et ça marchait bien, en fait. Alors,
c'est une très très belle expérience. Je vois qu'il y a quelqu'un dans T-Speak. Je sais pas, est-ce que j'ai un Vert de Roche de Pontarlier. Si tu m'entends, si tu veux poser une question à notre ami Pierrot, c'est maintenant. Si tu veux poser une question, c'est maintenant. Je sais pas si tu nous écoutes. On va voir, on va attendre. Et Pierrot, je voudrais par contre, on n'a pas eu le temps, on va y revenir. Tu nous parles un peu de ton impression sur la version 9. Comment tu le sens, quoi, actuellement?
Ah, la version 9. Alors, je suis peut-être pas représentatif parce que je fais beaucoup de l'hélico, en fait. Alors, il pleurait en discutant avec Daniel à Ben, là, aux dernières rencontres à Ben, au mois de mars.
Oui, oui.
Avril, non, je sais plus. On a pas mal discuté qu'il avait beaucoup, Austin a beaucoup travaillé sur les hélicos parce qu'il y a un autre gars qui développe, là, je sais plus, Brettes ou je sais plus qui avait poussé dans ce sens-là. Donc les vortex rotors, ça existait pas du tout dans la version 8. Tu pouvais descendre comme une fusée en surplace et l'hélico plongeait jamais.
Ouais.
Il y avait différents comportements. La transition entre vol lent, vol rapide était beaucoup, a changé. Donc les hélicos ont été très nettement améliorés. Mais tout le monde ne vole pas sur les hélicos. Et il semblerait, alors au moins sur mon installation et tout ça, que la fluidité soit meilleure à réglage égaux, en fait.
Bon, écoute, ça c'est plutôt positif. Tiens, j'ai également Milan qui est rentré dans le studio sur la pointe des pieds. Milan, si tu me reçois, si tu as une petite question à poser, c'est le moment. Sinon, on va tout doucement, on va conclure l'émission. Hein. Tu sais qu'on a été bavard, non, Pierrot?
On a explosé le record de la durée, aïe.
Milan, je t'entends, Milan.
Oui, non, j'ai pas de question à poser. Je viens simplement saluer Pierrois qui est devenu un fanat de l'hélico, d'abord avec le Colibri, ensuite avec le R22. Et je l'invite s'il a le temps lundi, puisqu'on fait un trajet qu'on a souvent fait ensemble. qui est Saint-Cyr-l'École, LFPI, ici les Moulineaux. Et
d'accord.
Ensuite, un petit survol de Paris en papillonnant.
Okay.
Voilà, et j'espère qu'il viendra.
Ok. Je pense que tu l'as pas entendu, hein,
Pierre. Eh non, j'ai entendu
quelque chose. Non, je m'en doutais, c'était pas prévu, puisque exceptionnellement ce soir, mon ami Pierrot est sur Skype et non pas sur TeamSpeak. Donc, simplement que Milan te saluait et que te disait qu'il voulait peut-être que tu viennes faire un petit tour en hélico sur un trajet que tu faisais régulièrement avec lui, du côté d'ici. Ça te dit quelque chose, je suppose.
Ah, ici les Moulineaux ?
Bah oui. Voilà, c'était un petit coucou.
Ah bah coucou Milan alors.
Un petit coucou super sympa de Milan. Je crois qu'on va conclure, hein. Vraiment, sincèrement, on va conclure. J'ai des petits messages de fin. Qu'est-ce que je dis ? Ah bah oui, bah déjà, un très grand merci à toi, un très grand merci à toi, Pierrot, hein, bah, d'être venu ce soir.
Bah, merci, Chouminou, alors, non, c'est sympa.
Tu nous as fait vivre
stressé,
une belle expérience, c'est vraiment super sympa, quoi. Et que dis-je encore ? Ah oui, j'avais noté, même si je suis super jaloux, allez, je fais un coucou à ces pilotes qui se bronzent à Papeete. La tournée des pépettes, c'est tout de suite après notre émission. Donc allez-y bronzer, c'est formidable, le Pacifique et les îles, c'est merveilleux. Alors attention, vendredi prochain, et entre nous, hein, c'est Daniel, si, Daniel, le seul, l'unique, notre encyclopédie volante, il sera avec moi dans le studio. Alors vraiment, n'oubliez pas cette émission, ce sera vraiment exceptionnel, il sait tout le bougre. Alors dis donc, pour terminer, Pierrot, est-ce que tu veux m'annoncer ton choix musical de ce soir ? Vas-y, on t'écoute.
Ah oui, je connais pas le titre de la chanson, mais c'est non. Le générique du film « L'histoire sans fin ».
Ah ouais, voilà. L'histoire sans fin.
Ça date un peu, mais voilà.
on va écouter ça. Je te souhaite une très très bonne soirée, un très très bon week-end. Bon week-end à tout le monde. Et puis, bye bye. Et
bye bye.
Bye bye, et j'envoie à la semaine prochaine. Salut.
radio qui décolle.